Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous entendons dans l'Évangile une partie d'une rencontre. Et c'est bien d'évoquer un peu le contexte, parce que nous qui venons chaque dimanche à la messe, ou la plupart du temps, nous avons intérêt à comprendre la raison et comment les premiers chrétiens ont vécu cette rencontre avec le Seigneur, ce qui a voulu signifier pour eux la rencontre avec Jésus. Et dans l'Évangile d'aujourd'hui, on nous présente un vieil homme, Nicodème. Un peu plus tôt, l'Évangile nous dit qu'il est venu rencontrer Jésus la nuit. Et l'Évangile de Saint Jean prend le temps de développer les dialogues, ce qui nous aide énormément parce que nous, même si nous prétendons parfois être très rationnels, nous avons besoin souvent de répétitions, de dire les choses autrement. Par exemple, aujourd'hui, on va nous dire que Jésus n'est pas venu pour juger, qu'il n'est pas venu pour condamner, qu'il est venu pour sauver, pour qu'on ne se perde pas, pour qu'on fasse ces passages de l'obscurité à la lumière, du mensonge à la vérité, du péché à la grâce de Dieu, de la vie charnelle à la vie éternelle. Vous voyez, c'est plein d'expressions qui essayent de dire un peu les mystères de notre humanité. Notre humanité est personnifiée dans ce dialogue par Nicodème. Nicodème, c'est un homme juste, un homme qui a cherché Dieu toute la vie, mais on dirait sans le trouver. C'est un maître d'Israël qui a essayé de mettre en pratique la loi, mais qui a compris que la loi ne donnait pas grand-chose. Et alors, il vient rencontrer Jésus pendant la nuit. La nuit représente la fin de la journée. C'est la fin de sa vie. Il est vieux. C'est l'humanité qui essaye de trouver une réponse, un sens, et qui ne la trouve pas tout seul. Nicodème, cet homme vieux, représente les limites de notre humanité, représente nos échecs. Lui qui vient dans la nuit, il représente aussi la mort qui nous guette à la fin de la journée. Et Jésus va lui dire qu'il faut un nouveau départ. Il va lui parler du baptême, justement. Il va lui dire qu'il faut naître d'en haut. Nous qui sommes nés de la chair, qui avons eu une naissance biologique il y a quelques années, eh bien, pour entrer dans la vie, il nous faut une nouvelle naissance qui n'est plus faite de la chair, mais de l'esprit. Et avec cette nouvelle naissance, il y a un bouleversement qui va rentrer dans notre histoire et qui va nous obliger, ou nous inviter plutôt, à changer mentalité, à changer l'approche, à nous convertir dans notre manière de concevoir l'existence. Mais au cœur de ces changements, pour que ces changements puissent se passer, Jésus annonce quelque chose d'inouï, de nouveau, qui est, nous pouvons dire, à chaque jour de notre existence, à chaque jour de mon existence, c'est la possibilité d'un nouveau départ. C'est la possibilité d'une nouvelle naissance. C'est quoi qui rend possible cette nouvelle naissance? Eh bien, Jésus, il dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Il est en train de dire à ce vieil homme que Dieu ne le laisse pas tomber. Il est en train de lui dire, ma présence dans ta vie, c'est le signe de l'amour du Père. Jésus, envoyé par le Père, est en train de nous dire à chacun de nous, mais voici, je suis pour toi la preuve de l'amour immense, éternel de Dieu pour toi. Dieu qui t'a créé ne veut pas te perdre. Tout ce qui est obscurité, tout ce qui est péché, tout ce qui est passé dans ta vie va trouver un nouveau signe parce que le Père m'a envoyé pour te sauver. Ce que nous sommes, notre humanité, avec ses limites, avec nos péchés, eh bien, Dieu ne veut pas les perdre. Et la présence de Jésus, c'est, si vous voulez, le premier pas, l'ouverture de nos yeux, et nous devons ouvrir les yeux à la présence de Jésus. Eh bien, la présence de Jésus, c'est le signe de l'amour de Dieu. C'est un bouleversement parce que c'est une nouvelle naissance, mais c'est aussi une nouvelle logique dans notre existence sur laquelle toute l'Écriture va insister et que nous avons du mal à nous approprier. Ça a l'air parfois un peu compliqué, mais ce ne l'est pas tellement. Cette nouvelle logique, c'est la logique de Dieu qui met de côté les jugements. Si nous pensons jusqu'à quel point les jugements ont pénétré nos pensées, nos existences, nos habitudes, combien de fois je ne me sens pas digne, combien de fois je ne me sens pas à la hauteur, et combien de fois j'ai raison, parce que je suis un homme pécheur, je suis un homme qui a raté plein de choses dans la vie, qui n'a pas toujours fait ce qu'il fallait faire, et parfois, et peut-être souvent, a fait ce qu'il ne devait pas faire, a accueilli des pensées qui n'étaient pas bonnes, qui n'étaient pas propres, a omis des actions qui étaient dues. Comme dit saint Paul, j'ai fait le mal que je déteste. Je n'arrive pas à faire le bien que je voudrais faire. Il résume, si vous voulez, l'état d'âme de Nicodème, qui est l'état d'âme de tout homme. Chacun de nous juge. Il se juge soi-même, parfois sévèrement, il juge les autres. Et nous ne parlons pas ici de juger l'extérieur des choses. Nous devons juger. Évidemment, c'est une capacité humaine. Nous devons juger plein de choses, tous les jours. Le médecin qui va poser un acte médical, il doit juger sur l'état de santé de son patient. J'espère que bientôt les techniciens qui vont réparer la sono de l'église vont juger et qui vont bien juger sur les problèmes acoustiques qui nous embêtent aujourd'hui. Nous devons juger dans la vie de tous les jours. Ce que nous ne pouvons pas juger et que l'Évangile nous dit de ne pas juger, c'est la valeur d'une personne. Jésus vient nous dire que nous ne pouvons pas identifier notre valeur avec nos performances, que nous avons la possibilité de reconnaître nos torts sans que ça touche à l'amour que Dieu a pour nous. Les parents qui font face souvent aux méfaits de leurs enfants, à leurs difficultés, on pourrait dire que c'est un peu pareil, que plus l'enfant pose des problèmes, plus les parents les aiment et plus ils s'investissent parce qu'ils ne veulent pas perdre leur enfant, ils ne se limitent pas à les juger. Ils essayent de trouver la voie pour les sortir. Le Père du ciel, celui qui nous a créés, il a fait de même. Et il l'a annoncé par les prophètes, il l'a annoncé bien avant les prophètes par Moïse. Il a reconnu que l'être humain peut se tourner vers Dieu, que parfois nous tapons sur celui qui nous a tant aimés, que parfois nous faisons le péché, que parfois nous faisons le mal. Et alors, déjà au peuple d'Israël qui traversait le désert et qui a commencé à se plaindre et à dire du mal du Seigneur, à imaginer que le Seigneur voulait les perdre à la place de les sauver, et qui se sont mis à parler contre Moïse, bien, dans le désert, c'est le livre des Nombres, on nous raconte que le Seigneur a permis les serpents de venir les mordre, et tout le peuple recevait les morsures, tous ceux qui disaient du mal de Dieu, ils recevaient des morsures des serpents. C'était comme une punition, mais qui n'était pas destinée à être mortelle, parce que Dieu dit à Moïse d'élever devant les yeux du peuple un serpent en bronze. Et pour être guéri des morsures, il fallait un geste tout simple, jeter un regard vers le serpent de bronze élevé par Moïse. Ce regard qui ne demandait aucun effort, c'était simplement une manière de dire « Je sais que j'ai péché et je sais que le Seigneur peut me pardonner. » Avec l'histoire d'Israël, cet aveu de péché va trouver une autre forme. Il va se prendre la forme des sacrifices. Une fois par an, les peuples se réunissaient. Ils confessaient leurs péchés, ils mettaient la main sur un bétail, une pièce de bétail, un agneau. Et ils enlevaient l'agneau ou le bouc, ils les faisaient marcher au désert, ils l'introduisaient dans le désert, ils les faisaient périr. C'était une manière de dire, voilà, nos péchés vont partir, nous sommes pécheurs, nous les reconnaissons, mais par la grâce du Seigneur, ces péchés vont périr avec la bête. Jésus vient nous dire, et il le dit aujourd'hui à Nicodème, et il nous le dit à chacun de nous, que c'est vrai que nous sommes pécheurs. Et que de même que Moïse a rendu les choses simples pour le peuple, Dieu veut les rendre simples pour nous d'une manière définitive. C'est en élevant son Fils unique qui vient payer la rançon pour nos péchés. Les péchés sont une réalité dans la vie humaine. Et ils nous ont déformés. Chacun de nous, qui se reconnaît pécheur, peut reconnaître aussi combien de mal ces péchés a fait dans sa vie. Mais ces péchés sont pardonnés. La seule chose que le Seigneur nous demande, c'est de les reconnaître. Toute la vie, toute la Bible est traversée de cette invitation à reconnaître les péchés pour permettre la grâce de Dieu d'agir. Le bouleversement, c'est que nous ne sommes plus jugés. Le jugement nous est réservé à chacun de nous. Je peux dire, je peux reconnaître simplement mes péchés. Et dès que je les reconnais, le Seigneur les pardonne. Celui qui ne les reconnaît pas, il reste dans l'obscurité. Il est déjà jugé, dit Jésus. C'est pour cela que toute l'Écriture nous invite à cet aveu de péché pour lequel le Seigneur va établir un sacrement. La foi, autrement dit, mon expérience de foi, la foi qui m'habite et qui me fait vivre, cette foi qui va me donner aussi l'espérance, la joie, la perspective d'une vie éternelle, elle est ancrée dans mon humanité, non pas parce que je suis juste, mais parce que le Seigneur est venu payer à ma place. C'est pour cela que les jours même de la résurrection, dans l'évangile de saint Jean, on nous présente Jésus qui souffre sur les disciples. Recevez l'Esprit Saint. Voilà, c'est Jésus ressuscité qui accorde à l'Église l'Esprit Saint et qui lui dit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils seront pardonnés. Nous sommes invités donc à regarder Jésus élevé devant nos yeux comme le serpent qui avait été élevé par Moïse. Et ce geste s'accomplit dans un sacrement, le sacrement de la réconciliation, de la pénitence. Ce n'est pas par hasard, ce n'est pas pour nous torturer que l'Église nous invite à la confession avant Pâques. C'est pour accueillir de tout notre cœur, en conscience et avec toute notre liberté, le pardon et le salut que le Seigneur vient nous offrir. Qu'il nous accorde, nous qui sommes ses créatures, ses enfants, nous qui sommes aimés, d'entrer dans cette logique de la gratuité. On n'est pas sauvé par nos bonnes œuvres. On n'est pas sauvé par une justice humaine. On n'est pas sauvé par nos efforts. On est sauvé par grâce. Et Jésus dit à Nicodème, tout ce que tu dois faire, c'est de croire. Croire à cet amour de Dieu qui a tellement aimé le monde qui a envoyé son Fils.